France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des enfants petits et grands ce samedi dans Plan Large avec Lisa Coca et Roman Guéré, Philippe Azoury et Christian Rosset et aussi Masha Chilinski et encore Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. On a souvent parlé ici de la présence et de la représentation des enfants au cinéma, comme il y a 3 ans et quelques, à partir du premier long métrage de Lisa Coca et Roman Guéré, Les Pires, c'est le nom du film, on ne se permettrait pas de les qualifier ainsi. Mais que se passe-t-il quand ils grandissent, ces enfants, qu'ils doivent trouver leur place dans le monde adulte? C'est entre autres ce que raconte, tout en n'oubliant pas de continuer à filmer leur territoire favori, l'enfance, donc les deux réalisatrices. Avec Ma Frère, qui prolonge sur grand écran ce qu'elles avaient travaillé sur le petit dans leur web-série Tu préfères sur arte.tv. Nous sommes ravis de les retrouver à cette occasion et de continuer avec elles cette discussion. Quand ils sont vraiment devenus adultes, les grands enfants se retrouvent parfois à devoir rejouer des rôles plus ou moins malaisants face à des parents âgés, voire carrément morts. C'est le sujet, moins au sens scénaristique que pictural, le motif des nouvelles variations du prince du minimalisme et de la langueur cinématographique. Jim Jarmusch, qui avec Father, Mother, Sister, Brother poursuit ce work in progress aussi cohérent que toujours imprévisible, entamé il y a plus de 45 ans avec Permanent Vacation. Nous avons eu envie, après l'avoir entendu s'exprimer avec sa parcimonie habituelle au micro de Marie Laborie dans ses midis de culture d'il y a 8 jours, de voir comment ce nouveau film s'inscrit dans son œuvre avec deux fervents jarmuchiens, Philippe Azoury, auteur de l'essentiel opuscule Jim Jarmusch, une autre allure, qui aime tellement vivre dans ses films qu'il a fini par habiter le dernier, et Christian Rosset, voix bien connue des auditeurs les plus anciens de cette maison, qui n'aime rien tant que voir et revoir ses films pour en écrire de longues explorations critiques dans ses terrains vagues du web magazine Diacritique. En fin d'émission, on entendra également brièvement la réalisatrice allemande des Échos du passé, Masha Chilinski, évoquer sa pratique spirit de l'écriture. On évoquera un très cher disparu, le grand passeur Jean-Max et Entebin remettra en lumière ce magnifique chef-d'œuvre qu'est le Sud de Victor Hérissé. Mais dans l'immédiat, dans une supérette parisienne de la place des Fêtes, on cherche un bon plan pour l'été.
Et à toutes sortes de loisirs, ils cherchent pas des gens? Il y a pas moyen de travailler avec toi?
Non, je crois pas. En plus, là, va y avoir le séjour en colo. C'est dans un camping où il y a de l'eau. Trop pas ton ambiance.
Bah si, je kiffe l'eau, pourquoi tu dis ça? Ma vie, je suis là, j'arrive là. On arrive, tu veux quoi? Tu veux, est-ce que t'avais kiffé les fours au chocolat ou les Pimps?
Mets-nous 2 cigarettes, s'il te plaît.
Je t'aime. Et du coup, c'est payé combien la colo?
380 net.
Carré, en plus, c'est Sabrina qui fait les recrutements. Psh, elle connaît ma mère, mon frère, elle pourra rien dire, elle nous connaît depuis qu'on est tout petite. En plus, c'est clean d'ouf comme plan, les enfants, tout ça.
Ah, fait chier. Il y a la voisine de ma daronne qui m'appelle.
Putain. Moi, je suis une gomme, s'il te plaît, voisin aussi.
Ouais, Nadej.
Voilà.
Et un sac de...
Oui, d'accord. Ok, 20h. Putain, faut que je la dépanne ce soir. Elle veut que je prenne mon petit frère pour la nuit.
Trop le seum, ouais. Je me sens pas dressée seule ce soir, je voulais que tu dormes avec moi. Mais en fait, cette daronne, frère, c'est une ouf, la vie de ma mère. Comment elle peut aller au bled et laisser ton petit frère comme ça chez la voisine? La vérité, moi je suis
choquée. Salut Moïse, bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous.
Bisous mon frère, à demain.
Bonjour Lisa Coca, bonjour Roman Guéré.
Bonjour.
C'est avec ces deux tchatcheuses, Shai et Djeneba, on va dire le nom de leur interprète, Shirel Nataf et Fanta Kébé, qu'on rentre dans votre deuxième long métrage, Ma Frère. Alors, celles et ceux qui ont regardé la web série que j'ai citée à l'instant, tu préfères sur arte.tv, alors c'est, tu préfères avoir des grosses fesses ou des gros seins, tu préfères manger du porc ou plus jamais voir ta mère, tu préfères avoir un enfant handicapé ou pas d'enfant du tout, etc. Grand dilemme qu'on peut se poser, les spectateurs les ont connues quand elles étaient un peu plus jeunes, elles avaient 16 ans, c'était en 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie de repasser du temps avec elles, hein, Romane Guéret?
En fait, on les a jamais vraiment quittées, donc le temps, on l'a passé avec elles, on les a vues, on les a observées grandir, évoluer, changer de vie, d'itinéraire, voilà, et tout en essayant de les soutenir un peu comme des grandes sœurs. Et il se trouve qu'elles ont quand même un talent pour le jeu indéniable, qu'on les admire aussi beaucoup pour ça, et donc on avait envie de leur offrir un nouveau terrain de jeu, un récit plus ample, plus romanesque aussi, et on avait envie de faire un film de cinéma avec ces deux-là, parce qu'elles méritent d'être vues.
Il y a une envie aussi de les voir vieillir, justement, à l'écran. Alors évidemment, ça devient la tarte à la crème dès qu'on prend des jeunes acteurs ou actrices, qu'on les regarde vieillir. On va se demander, est-ce que c'est votre Antoine Douanel, ces deux jeunes femmes? Mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi, une façon de faire le portrait aussi de votre propre relation, de deux réalisatrices qui travaillent ensemble?
De Lisa notre Coca. Propre relation à toutes les deux, non, pas forcément, parce qu'on est... en fait, Romane et moi, on n'est pas meilleurs amis depuis l'enfance. On s'est connus en travaillant ensemble et on est devenus amis à partir du moment où on travaillait ensemble. Et aujourd'hui, on est très amis, évidemment. Mais c'est vrai qu'à travers les personnages de Shai et Djeneba, on se raconte aussi toutes les deux. Nous, en tant que jeunes femmes, passées à l'âge adulte il n'y a pas si longtemps, en tant que jeunes femmes aussi qui avons traversé les colonies de vacances pendant des années enfants, et puis en tant qu'animatrice après. Et oui, c'est vrai que Shirel et Fanta, elles sont un peu nos doubles, un peu nos alter ego, et que ce film c'est aussi une façon de se raconter à travers elles, et évidemment de les raconter elles, et de raconter tout notre amour pour elles, et les suivre à l'adolescence et maintenant dans leur passage à l'âge adulte. Pour autant, je pense pas qu'on passera notre vie à faire des films sur elles. On a aussi d'autres envies, mais en tout cas on continuera à être proche d'elles toute la vie, je pense.
Peut-être que vous aurez des rendez-vous futurs, on ne sait
peut-être,
jamais ce qui va se passer. Alors, on a l'impression, en regardant ce film, que ça raconte aussi ce passage de la série télé, du petit écran au grand écran, c'est-à-dire que vous commencez avec ces deux jeunes filles que vous suivez, et puis le plan, d'une certaine façon, c'est comme si l'écran grandissait, allait s'élargir, parce que vous mettez beaucoup, beaucoup de monde dedans.
Oui, c'est vrai qu'on avait l'ambition de faire un film choral. En fait, on avait fait Les Pires, notre premier film, qui l'était déjà et qui racontait déjà ce temps un peu circonscrit pendant un été lors d'un tournage. Et donc, en fait, le carcan, il y a plein de choses qui ressemblent, de similaires. Et en fait, je crois que de faire... c'était le plus difficile, c'était le plus gros challenge de faire un film où on arrive à faire tenir autant de personnages, autant de récits. Alors voilà, il y a une hiérarchie dans les personnages. Et les deux filles ont les rôles principaux, mais c'est vrai qu'on avait aussi envie que tous les rôles secondaires existent et leur propre trajectoire, et qu'on s'y attache à tous ces gamins. Et donc ça a été le challenge à l'écriture. Sur le tournage, peut-être on y reviendra, mais c'était quand même assez difficile à gérer, mais c'était génial. Et au montage, parce que c'est une dernière écriture finalement, où là tout va se jouer. Mais c'était hyper important pour nous, parce qu'on a l'impression que la choralité, le regard pluriel permet aussi de nouveaux récits.
Mais il y a cette tension aussi dans votre manière de les filmer, c'est-à-dire qu'on voit que vous avez toujours, ce qu'on avait repéré déjà dans vos films précédents, une vraie attention au visage, vous avez un amour manifeste du visage, mais qui doit aussi inclure le groupe après. Donc comment est-ce que dans la mise en scène, vous avez joué sur cette tension-là?
Oui, on a un amour du gros plan, on a un amour des regards contre lequel on se bat parfois pour réussir à inviter des plans plus larges. Je crois que on a réussi un peu plus à les inviter dans ce film que dans Les Pires. Mais bon, c'est vrai que ça persiste quand même, cet amour du détail aussi, du grain de peau, du geste. Et voilà, là... le nouveau personnage aussi de ce film, c'est la nature, c'est la Drôme. Et donc, ce décor nécessitait aussi de s'élargir un peu. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est de filmer une scène où il y a 20 enfants à la fois, 20 enfants qui parlent et qui fait ping-pong. Donc, pour ça, techniquement, on a mis en place notre petit dispositif, c'est-à-dire deux caméras, une plus ample, plus mobile, qui encercle l'endroit de jeu, l'endroit où il y a tous les, enfin le plateau, quoi. Et puis une caméra à l'épaule, plus nerveuse, qui va traquer plus les détails. Et on entend comme ça couvrir un peu tout ce qu'on peut attraper. Et puis après, une direction d'acteur à l'oreillette.
Ah oui, alors ça, il faut expliciter, enfin raconter un peu, parce que c'est un dispositif qui n'est pas uniquement le vôtre. On sait que Bruno Dumont travaille comme ça, Albert Serra aussi. Pourquoi est-ce que vous faites ça, surtout diriger 20 enfants à l'oreillette, j'imagine que c'est pas la même chose qu'en diriger deux. Mais qu'est-ce que vous cherchez avec cette façon de travailler, Lisa Coca?
C'est une façon de, je dirais, de pas sacraliser aussi pour eux le moment du action. Et en fait, de faire baisser un peu la pression sur le fait que, quand on filme, ça continue à être des répétitions, ça continue à être un work in progress. Et donc, on fait des prises très longues qui durent parfois 45 minutes, où on ne coupe pas pour retourner sur le plateau, à chaque fois leur dire faut faire ça plus comme ci, comme ça et tout ça. Et en fait, on les accompagne un peu en permanence dans l'oreille, comme si on était une petite voix dans leur tête qui, à la fois, soutient le rythme de la scène, mais aussi les encourage et leur donne confiance et les accompagne pas à pas. On reproduit quelque part en fait les conditions de répétition où nous, quand on répète avec les enfants, on est tout le temps en train de leur parler pour les accompagner. Et sur un plateau de tournage, évidemment, on peut pas faire ça, sinon on gêne beaucoup au son, et après c'est un petit casse-tête au montage. Il y a une confiance qui s'instaure aussi avec les enfants dans les oreillettes. Ils se jugent moins, ils se regardent moins, ils sont un peu plus, ça les met un peu plus au présent. Il y a beaucoup de vertus que je pourrais vous raconter ça pendant des heures, mais j'aurais pas le temps là, donc j'espère en avoir dit assez.
Une des vertus en tout cas pour le spectateur, c'est que ça donne ça, par exemple.
Vas-y, maintenant, tu viens, Mathéo.
Non, Yasmine, arrête de marronner. Les teintes, elles sont paniques, c'est comme ça bouge pas. Donc maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille.
Hein? Je suis pas ta fille, frère.
Bon, vas-y.
Tu casses les couilles. On peut rien faire, de toute façon, ici.
Non, c'est pareil. Et franchement, je te comprends tellement. Tu savais comment je payais cher pour dormir avec mon mec, moi aussi.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle Ismaël. Laisse tomber, c'est fou comment je l'aime. On se connaît depuis qu'on est tout petit, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on est en couple. Je me vois vraiment avec lui, hein. C'est l'amour de ma vie. Je fais tellement confiance que je fouille même pas son téléphone.
Bêtise, ça a jamais faire confiance à un homme.
Bah alors, on est encore en train de papoter ici?
Non, allez, on fait un bisou et on dort, hein? Bisous ma belle, bisous ma chérie.
Bisous mon bébé. Et bisous bébé. Et toi, Bonamella, tu me fais pas le bisou?
Sans face.
T'es méchante, je suis fâchée.
Non, personne n'est méchant. Personne n'est obligé de faire de bisous à personne. Allez, bonne nuit les filles.
Bonne
nuit. Quel coup
d'œil. Elle est fille, on dort pas cette nuit, ok?
Ouais, grave.
Ok, grave, on sait bien ce qui se passe dans les tentes quand les monos sont partis. Et voici un groupe d'enfants qui n'a rien à envier en termes de verve à leurs aînés. On vous avait reçu, je l'ai dit, toutes les deux, Lisa Coca et Romaine Guéret, il y a 3 ans, pour votre premier long métrage, Les Pires, qui réfléchissait à comment est-ce qu'on filme un enfant, ce qu'on peut lui faire, dire ou pas, la responsabilité de l'image qu'on renvoie de lui, autant de réflexions qu'on imagine vous avez mises en pratique pour mettre en scène ce vaste groupe que vous filmez cette fois.
Oui, bah on continue à se questionner là-dessus. Il se trouve que là, c'est un long casting d'un an. On avait 1500 enfants, mais donc à la fin de ce processus, on a nos 20 petits comédiens, comédiennes, et on va aller avec eux questionner les séquences, parce qu'en fait, ce que peut prêter un peu à confusion l'histoire des oreillettes, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation pour autant. L'oreillette n'est pas un outil d'improvisation, et donc les enfants, avec eux, on travaille comme des pros, et on leur demande d'apprendre le texte au cordeau, et donc toutes les phrases que vous venez d'entendre dans l'extrait sont écrites, discutées avec eux, préparées, et nous, on croit beaucoup, et donc c'est une façon aussi de les protéger, et c'est notre manière de faire du cinéma avec les enfants, c'est en tout cas de les mettre dans une grande maîtrise de ce qu'ils font, de pas... On les surprend pas sur des séquences qu'ils n'auraient jamais lues. Tout est préparé à l'avance. Et en fait, quand ils mettent un pied sur le tournage, on est dans une vraie collaboration, une fabrication ensemble. Et on pose pas une caméra en se disant on va filmer la nature de ces enfants. Non, en fait, c'est beaucoup de préparation et de fabrication. Et nous, on a la sensation que c'est une façon de les rendre acteurs, ouais, de ce processus et de faire avec eux et pas en se servant d'eux.
C'est-à-dire que toutes les questions, par exemple, qui sont abordées dans ce film, parce qu'il est question, on l'entend un petit peu dans cette scène de consentement, par exemple, enfin, renversée ici par rapport à ce qui se passe sans doute d'habitude, puisqu'il y a cette petite Yasmine qui a une emprise totale sur ce jeune garçon Mathéo. Il y en a une autre qui a de l'emprise sur une copine qu'elle dirige un peu comme une marionnette. Par moments, tout ça, ce sont des questions qui ont fait l'objet de débats avec les enfants avant, sur comment est-ce que ça allait être abordé, par exemple, Lisa Coca.
En fait, on a écrit ce film en passant beaucoup de temps avec beaucoup d'enfants, donc en faisant ce qu'on appelle des immersions, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans des centres de loisirs, dans des écoles, amener des ateliers d'improvisation avec des enfants. On a aussi passé du temps en colonie de vacances, où on a fait embaucher Shirelle et Fanta en tant qu'animatrice stagiaire pour les regarder en situation. Et voilà. Et donc tout ça, toutes ces rencontres, ces centaines et centaines d'enfants rencontrés pendant des mois, c'est vraiment ce qui nous... Enfin, on s'est vraiment imprégné de leur langage et des récits et de tous ces enfants rencontrés pour écrire cette histoire. Donc en fait, le scénario est le fruit de notre observation et de centaines d'heures enregistrées, retranscrites, de plein de notes, de plein d'anecdotes et tout ça. Donc en fait, voilà, c'est déjà le travail avec tous ces enfants-là qui ont inspiré cette histoire, qui a donné ce scénario. Et après, les enfants dont on parle, qui sont les interprètes du film, et donc qui sont les enfants qu'on a trouvés à l'issue d'un long casting sauvage, oui, avec eux, à nouveau, il y a une rediscussion sur leurs personnages. Et parfois, il y a certains personnages qui subissent une réécriture à la rencontre d'un enfant, avec après coup de cœur sur un enfant qui peut être un peu éloigné du personnage tel qu'il était écrit. On peut réécrire les choses, on peut repenser les choses pour eux. Et c'est vrai que les répétitions avec les enfants qui joueront dans le film, c'est beaucoup les séquences du film, l'apprentissage du texte et tout ça, mais c'est aussi parler du fond du film avec eux, débattre avec eux de ce que raconte le film, de la trajectoire de leur personnage, des enjeux, de voilà, pour qu'ils, encore une fois, qu'ils soient là, actifs et pas passifs, faire ce qu'on leur demande, mais qui puisse être force de proposition aussi, quoi.
Alors, quand on tourne un film de colo, puisque c'est un genre en soi maintenant, dans le cinéma, on imagine que vous faites comme Claude Miller, par exemple, dans La meilleure façon de marcher, c'est-à-dire que vous êtes obligé de constituer une colo pendant laquelle on tourne un film. Donc il y a une vraie dynamique de groupe entre ces enfants. Est-ce que ce qui s'est passé pendant le tournage a pu influer sur ce qui est raconté dans le film ?
Oui, énormément. Et alors, pour le coup, on aurait... Personne ne nous oblige à fabriquer une vraie colo. On aurait pu inviter les parents comme ça se fait sur plein de tournages. Il se trouve qu'on avait aussi envie de les mettre dans ces conditions de colo, mais aussi pour créer une sorte d'égalité que crée la colo. Tout le monde a la même enseigne, tout le monde se lève à la même heure. Et voilà. Et en fait, on a mis en place, grâce au soutien de notre producteur Pierre et Jean de Superstructure, ils nous ont dit ce qui serait super, c'est de fabriquer une colonie de vacances dans le décor du film. Donc en fait, nous on arriverait le matin, mais eux ils seraient au petit-déj, quoi, comme une vraie colo, avec un corps d'animateurs qui s'occupe d'eux, en dehors aussi des périodes de tournage, parce qu'on sait que les enfants, en fait, c'est quelques heures dans la journée.
Bah, il y a une loi qui les protège, qui leur interdit de tourner plus de 4 heures par jour.
Oui, ça dépend des âges. Ça dépend des âges. Ça, ouais. Ça dépend des âges et des jours de la semaine et les vacances ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas faire une journée entière avec ses enfants. Et donc, c'était un énorme casse-tête de premier assistant que challenge relevé avec brio par Benoît Cellier, notre premier assistant. Et donc, quand ils ne tournaient pas, ils faisaient des activités à côté, ensemble, avec leur groupe. Et après, il y avait l'activité tournage quand ils revenaient. Et évidemment... Ça a créé des choses magnifiques, des relations. Je pense que le film transpire beaucoup de ça et on était hyper heureuse d'avoir mis ça en place parce que ce qui se passait dans le film se passait parfois avec d'autres dans la vraie vie. Et en fait, du coup, les questionner dans la vraie vie. Et donc, ça alimentait et ça enrichissait beaucoup le tournage.
Alors, dans les activités qu'on propose à ces enfants, il y a une sortie au Mémorial de la Résistance en Vercors où ces enfants vont être confrontés au récit d'une rescapée de la Shoah qui va les renvoyer à des questions à la fois sociales pour eux, qu'est-ce que c'est que d'être des minorités au sein d'une société, mais aussi des questions métaphysiques sur la mort. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre cette séquence dans le film ?
Alors déjà, c'est très proche de la réalité des colonies de vacances où il y a toujours des sorties pédagogiques assez édifiantes qui permettent aussi de sortir un peu du huis clos de la colonie de vacances. Le témoignage de cette dame permettait aussi de mettre en perspective, de faire écho à plusieurs sujets, comme vous disiez, qui traversent le film, plusieurs sujets profonds, graves, comme la mort, la peur, la transmission des traumatismes, les traumatismes transgénérationnels. Et puis, plus globalement, c'est un film aussi qui parle beaucoup de transmission maternelle, mais de transmission enfant-adulte et inversement, de ce qui nous est légué, de ce qu'on peut, de ce qu'on enseigne. Et donc voilà, c'est des questions qui traversent le film tout du long. Et c'est aussi un hommage à ma grande-tante qui a dansé l'histoire.
Personne et le glas, et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs, et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé. Hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres
furent. Merci Lisa Coca et Romaine Guéret. Pourquoi Barbara ? Vous le saurez en allant voir Ma Frère. C'est en salle depuis ce mercredi. On le retrouve en couverture du nouveau numéro de la revue Positif avec un passionnant entretien à l'intérieur qui prolongera notre discussion. Et puis, pour qui voudrait voir et revoir Chaï et Djenéba avec quelques années de moins, mais pas moins de verve, votre web série Tu préfères, c'est toujours visible sur arte.tv. Vous écoutez France Culture, Plan Large. Et vous restez avec nous, Lisa Coca et Romaine Guéret. Petit changement de rythme.
Hey.
Oh, hi, Daddy.
Hi, Dad. Hey, Emily. Come on in, Jeff. Come on in.
Excuse me.
Okay. Okay, well, you look fantastic. And you don't look any old.
Well, that's debatable, but thank you.
That's a really great color on you.
Oh, thanks. And on you, too.
Oh, yeah. Well, a nice sweater, too.
Oh, good job.
Oh, yeah.
Yeah, I think it's a family thing. Yeah. Watch out. Here we go.
Sorry.
Oh, sorry.
Wow. Good to see you, son. You've always been my favorite son.
Well, your only son.
As far as we know.
That's the same sense of humor. Come on inside.
Okay.
C'est le premier segment de Father, Mother, Sister, Brother. Les oreilles les plus attentives auront sans doute reconnu le growl caractéristique de Tom Waits, vieux fidèle du cinéma de Jim Jarmusch depuis Down by Law, c'était il y a déjà 40 ans, voilà, qui ne nous rajeunit pas. Dans le rôle des enfants devenus adultes en visite chez leur roublard de père, il y a le poète de Patterson et le flic ahuri de The Dead Don't Die, Adam Driver, et puis une nouvelle venue, je crois, dans la bande de Jarmusch, Mayim Bialik. On n'insiste pas assez, je crois, à la fidélité du cinéaste à son goût des acteurs, qui est peut-être avant tout un goût des voix, de leur timbre, de leur rythme propre. Le compositeur que vous êtes, Christian Rosset, ne peut, on l'imagine, qu'être réjoui par cette musicalité propre au film de Jim Jarmusch depuis le début. Il faut se mettre à l'écoute de ces films, écrivez-vous sur Diacritique, Christian Rosset.
Bon, pour moi, c'est un peu logique parce qu'au départ, et je suis toujours musicien, et donc j'ai l'oreille particulièrement aiguisée. Mais justement, moi, quand je vais voir les films de Jim Jarmusch, je regarde vraiment l'aspect plastique aussi, puisque finalement, ces sons qui reviennent sont des sons que je connais et qui font retour parce que le principe de Jarmusch, on l'a assez dit, mais bon, moi... Ça fait des années, ça se voyait dès le début, c'est un principe de variation qui est aussi un principe musical. Et comme il travaille avec des voix, il est évident qu'il ne peut pas prendre n'importe quelle voix. Donc il y a la voix, mais il y a aussi le rythme, l'intonation. Ce qui est assez fascinant quand on entend ces quelques secondes de film, même si on imagine la tête de Tom Waits ou d'Adam Driver, c'est la manière dont les mots très simples et qui sont drôles et qui fonctionnent très bien sont placés. Avec le minimum de son autour pour que ça soit pas comme ici un enregistrement de studio où on va remixer des choses comme ça se fait dans les dramatiques ici. Et donc effectivement, c'est musical au niveau du son, mais c'est musical aussi à tous les niveaux, y compris au niveau de l'image, au niveau de la composition. Et c'est musical et poétique, les deux choses étant, je pense, chez Jarmusch, une et une seule pratique.
On va y revenir sur l'image, mais puisque Philippe Azoury, je ne sais pas si c'est pour votre voix qu'il vous a choisi ou pour votre vieux compagnonnage avec ses films, en tout cas, vous faites une petite apparition et on laissera les spectateurs voir quand et à quel moment dans ce film. Mais dans votre livre... Vous écriviez, il filme des mouvements en musicien, et on se demande si sur le plateau, et vous allez pouvoir nous le dire, puisque vous y avez été, est-ce qu'il dirige à l'oreille ?
Non, mais je suis en train de réfléchir à votre question, Antoine, de précédente, c'est quoi ma voix ? Qu'est-ce qu'elle a, ma voix ?
Elle est un peu plus aiguë que celle de Tom Waits, mais enfin, il y a du rapport.
Non, peut-être c'est à l'oreille, mais sur la brève séquence que... dans lequel j'ai été dirigé par Jarmusch, c'est plutôt sur un enchaînement de gestes que ça s'est fait. Ça se voit, la séquence est aujourd'hui découpée en deux plans, comme ça, quatre plans, parce que par rapport à l'entrée et à la sortie, mais il avait orchestré un immense plan séquence qui devait durer à peu près... Allez, je sais pas, 5 à 7 minutes, j'avais l'impression. Après, on a des durées ressenties qui sont très étranges quand on est filmé par une caméra. Mais quand même, ça voulait dire que Lucas Sabat, qui joue l'un des deux jumeaux, comme ça, métis, sortait de la voiture, traversait la rue, rentrait dans le bar, venait me retrouver. Moi, j'étais déjà dans le bar, la caméra était sur moi, donc ça, c'était avec un changement de focale. Là, il y avait un échange, donc on ne dévoilera pas, mais du coup, tout était sur l'enchaînement de cet échange, qui est un échange assez, finalement, difficile à faire quand il doit être filmé, parce qu'il faut aller chercher au fond de sa poche, il faut donner quelque chose, on me donne de l'argent, je redonne de l'argent. Il y a une ou deux phrases de dialogue comme ça qui ont été modifiées. Il y a eu 6 ou 7 prises. Et ensuite, Lucas Sabat repartait. Et pendant que moi, j'étais en train de fumer une cigarette. Et comme ça, il y a à nouveau un changement. J'imagine qu'il y avait un changement de focale. Bon, aujourd'hui, il ne reste plus que des fragments, comme ça, un peu aériens de cette séquence-là. Mais ça s'est tourné sur ça. Et ça s'est essentiellement tourné sur le temps que prenait Lucas pour sortir de la voiture, traverser la rue, rentrer dans le bar, sur le geste de nos échanges à nous. Très peu, finalement, sur les deux lignes de dialogue qui se sont même imposées progressivement. Je pense qu'elles n'avaient presque pas dans la première prise, pour finalement arriver, voilà, et la façon de fumer, en ce qui me concerne, de fumer une cigarette. Qui n'est pas à peu près ma façon de fumer une cigarette en général, mais je veux dire, enfin voilà, il fallait quand même il fallait aspirer et prendre ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté et de pesanteur, je dirais.
c'est ralentir les gestes. Alors, le grand principe du cinéma de Jim Jarmusch, Christian Rosset, vous le rappelez, que son ami Coris Maki l'appelle Mr. Slow, il y a une façon de regarder vivre les personnages, mais de les regarder vivre lentement et de prendre le temps de les regarder.
Oui, de toute façon, il y a un travail sur le temps, hein. D'ailleurs, encore une fois, c'est là où le côté musical, la musique est jusqu'à preuve du contraire un art du temps. Et les variations, c'est un art de composition à l'intérieur d'un temps donné. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Philippe Azouris, c'est de... Parce que je ne sais pas comment le montage change un film. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement précis, mais il est possible que cette précision vient surtout au montage.
Le montage a duré de très très longs mois. Le montage de tout, pas de cette séquence-là, hein, je m'entends, de tout le film. Oui. Le film a été tourné, la séquence parisienne a été tournée au mois de mars. C'était la dernière séquence, donc je pense que le film a désormais 2 ans en tournage. Et il y a une année, littéralement, de montage. Et moi, je le voyais régulièrement à ce moment-là, quand il venait à Paris. Et on parle très très peu des films ou du travail, on parle d'autre chose quand on se voit, mais quand même, il me disait qu'il avait énormément de difficultés sur le montage de ce film-là. Donc, il cherchait quelque chose en termes de rythme et de précision. À mon sens, il l'a trouvé, parce que je trouve le film formidable.
Le film est extraordinairement rythmé. Et en fait, comme on dit toujours, on parle toujours de minimalisme sans savoir ce que c'est réellement. Mmh. Parce que le minimalisme de Jarmusch n'est pas du tout celui, par exemple, de Philippe Glass ou de gens comme ça. Ça n'a rien à voir. Enfin, que les gens associent au minimalisme. Le principe du minimalisme, c'est moins, c'est plus. Hein. C'est-à-dire, au fond, quand on fait le montage, on coupe des choses pour amener plus, c'est-à-dire, et comme il a un sens du détail prodigieux, des objets, dans Patterson, Patterson, la traduction française de Patterson a été publiée en France, enfin par Yves Dimano, à peu près en même temps que les premiers films de Jarmusch, c'est assez ancien, et il y a une phrase célèbre de Patterson, c'est « pas d'idées sinon dans les choses », qui est une phrase de William Carlos Williams, et on voit que c'est une, on voit bien qu'il part de là, enfin il part pas que de là, parce que il part de ce fond américain prodigieux du début du XXe siècle qui a été justement les objectivistes et tout ça, et dont il retrouve des échos dans tout ce qui l'intéresse dans la culture, non pas seulement américaine mais mondiale, c'est-à-dire ces idées extrêmement simples qui consistent à dire il y a un poème, je l'avais noté, de Williams, bon, je ne sais pas si les gens le connaissent, qui est un poème très simple, qui a beaucoup marqué à l'époque, c'est « Tant de choses dépendent d'une brouette rouge lustrée par l'eau de pluie à côté des poulets blancs ». Ça date d'il y a plus d'un siècle. Mmh. Et c'est un poème, il y a tout là-dedans, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et ça a marqué des dizaines de générations, depuis. Et donc les films de Jarmusch, c'est comme ça, on a l'impression, c'est pour ça qu'il y a des critiques qui ont l'impression qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'action. Mais de même que Williams avait mis l'accent sur cette brouette que personne ne sait regarder, lui, il met l'accent sur des choses qu'on ne voit pas forcément au premier plan.
Cela étant, je vous écoutais, je pense qu'effectivement, il y a cette inscription des choses qui est essentielle chez lui, et depuis le début, depuis Permanent Vacation ou Stranger in Paradise, ça c'est un fait, il sait le faire aujourd'hui, il sait le manier. Je pense que, je crois qu'il est fort probable que ce soit l'épisode parisien qui ait demandé un travail sur le montage plus long, une résistance, ça ne veut pas dire qu'il galère en montage, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lui résiste, il doit se surpasser, il doit changer de position et pour arriver, à mon sens, à réchauffer le film. Et c'est là, moi, je pense que c'est un film assez formidable, c'est que la dernière partie invente, en termes de balade dans Paris, quelque chose qui n'avait peut-être jamais eu lieu dans son cinéma, ou en tout cas il y a peut-être très très longtemps, et à un moment où son cinéma s'est raidi dans une sorte de grammaire, de mécanique, de mathématiques même, magnifique, sublime, mais que Paris tout à coup a réchauffé dans un sens qui moi me rappelle énormément le cinéma de Rivette, et il faut quand même savoir que à l'âge de 23-24 ans, Jim Jarmusch a fait une année, alors qu'il était étudiant en lettres à New York, a fait une année d'études à la Sorbonne, il l'a plutôt passé à la Cinémathèque, c'était au milieu des années 70, et c'est de tous les grands de la Nouvelle Vague, c'est Rivette qui l'a frappé. Et il y a quelque chose, je pense, alors j'en ai parlé, il fait semblant que ce soit « Oh mon, tu crois que le Pont du Nord, c'est vraiment... » comme s'il découvrait le film. Par exemple, la séquence qui est tournée au Pigalle Country Club, le café s'appelait, le bar s'appelait originellement dans le scénario, le bar Juliette, en hommage à Juliette Berthaud. Enfin, je trouve que Paris, le Rivetti, c'est ce qu'on dit comme ça, on dit le Rivetti. Oui, le Rivetti.
Rivetti, donc, Rivetti.
Antoine, vous validez?
Je valide. Bah, d'ailleurs, on va écouter un petit bout de cet épisode parisien.
Billy, you did all this since we last spoke?
Yeah. Organized it all, packed it all up, sent it to storage, packed. And two truckloads? Well, two vans, but anyways.
It's amazing. Thank you. I'm so impressed you organized it all. Especially impressive for such a fuck up.
Thanks. It wasn't actually that bad, though. Drove each load over, packed into the storage unit, and,
Bob's your uncle. I love you.
C'est fou comme on entend un rythme propre, hein, vraiment, à Jarmusch, quand on écoute ces films. On vient d'entendre cette réplique « And Bob's your uncle », qui revient trois fois dans le film, comme d'autres motifs. Alors « And Bob's your uncle », ça veut dire « Et voilà », en anglais d'Angleterre, précise Jim Jarmusch. C'est étrangement traduit dans les sous-titres français par « Le roi n'est pas mon cousin ». Je ne suis pas sûr que l'expression veuille dire la même chose. Non, ce qui est toujours passionnant chez Jarmusch, c'est de repérer ces motifs qui reviennent. Alors, il y en a plusieurs dans le film. Il y a des questions de couleurs assorties dans la famille, le bordeaux, le rouge et le noir. Il y a ces trajets en voiture qui, à chaque fois, amènent chez les parents. Il y a une Rolex qui traîne. Il y a des plans zénithaux sur des tasses qui s'entrechoquent régulièrement. Quelle est la fonction pour vous de ces motifs comme ça qui reviennent? C'est encore le principe du goût de la variation ou c'est le côté oulipien, oussipien, il faudrait dire, de Jim Jarmusch? Christian Rosset secoue la tête.
C'est pas du tout oulipien. Enfin, encore que si, parce qu'il y a
un goût de la contrainte chez lui quand même.
C'est un goût de la variation, mais par contre, il y a une chose. Moi, c'est un truc qui m'obsède depuis toujours, mais c'est une obsession personnelle, mais ça colle bien avec Jarmusch. C'est le goût qui est d'ailleurs très courant dans les gens qui s'intéressent à la poésie et à la musique, le goût des nombres impairs et des nombres premiers. On peut regarder tous les films de Jarmusch dès qu'on compte quelque chose, dès qu'on s'aperçoit. Ça, on tombe toujours sur les mêmes nombres. Là, c'est le nombre 3, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il faut savoir que c'est quand même ce qui régit, par exemple, la poésie classique japonaise. Mmh. Et ce que disent fameux vers de Verlaine qu'on connaît de la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair, etc. Et donc, moi, quand je peux pas m'empêcher de compter, mais sans le faire exprès, c'est... Bon. Jacques Roubaud faisait pareil, hein, puisqu'on a parlé de l'Oulipo. Je me dis, tiens, c'est marrant. Je me dis, je suis sûr que Kofi Annan Cigarettes, il y a 11 parties. Il n'y en a pas 10 ou 12, il y en a 11.
Plus une.
Non, il y en a vraiment 11.
Il y a un bonus dans le DVD.
Oui, mais ah oui, mais c'est un bonus.
Alors là, ah oui, mais de même que, là, on devient dans une discussion entre pinaillage, Jarmuchin. Non, mais la question de la contrainte,
C'est ce qui permet de justifier le truc. Parce que, par exemple, là, il y a trois parties, il y a trois mouvements, comme il dit, mais il y a aussi quatre mots dans le titre, etc.
Non, mais la question, je pense que c'est...
Philippe Azoury.
On sait enfin que les films de Jarmusch filment des solitaires qui cherchent à faire tribu, qui cherchent à faire, à faire communauté. Faire deux, c'est compliqué. Faire plus que trois, c'est une galère. Essayer de faire trois, c'est pas mal. Ça élargit. Donc on arrive effectivement à des séries peut-être de nombres premiers, peut-être avec des métriques très compliquées. Mais je crois que chez lui, ça lui permet d'abord d'essayer de voir comment cette espèce de loup solitaire à cheveux blancs peut arriver quand même à créer des tribes, comme il dit, ou des familles, d'autres familles en tout cas, ou des communautés. De loin en loin, selon les pays ou les régions. Je suis d'ailleurs étonné, à commencer par moi-même, parce que je ne lui ai jamais posé la question. Enfin, je ne lui ai pas posé la question là quand je l'ai vu. J'ai pas lu tous les entretiens. J'ai un peu une autre vie en ce moment, mais personne ne lui a demandé pourquoi trois pays différents, par exemple. Hein, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée qu'une famille, finalement, chez lui, elle se fait... même déjà à l'intérieur des villes, il voit des gens, il cloisonne beaucoup, il sépare. Et l'idée de séparer, c'est quand même pas rien chez lui. Je crois qu'une des choses qui l'avait vraiment, vraiment beaucoup intéressé il y a un milliard d'années, au moment de Mystery Train, c'est-à-dire 89, je dirais, c'est ça, 80, c'est 89, oui, Mystery, oui. 88, 89, ouais, Mystery Train. Ce qui l'avait beaucoup intéressé à l'époque, c'était qu'il avait lu Les Palmiers Sauvages de William Faulkner. Et Les Palmiers Sauvages, c'est un récit de Faulkner, qui était à la base de nouvelles, et l'éditeur de Faulkner lui avait dit, tu as qu'à entremêler un chapitre et alterner les chapitres, et ça donne un récit. Et c'est exactement comme ça qu'il avait voulu travailler pour Mystery Train. Et à partir de là, c'est étonnant comme il est revenu à ce qu'avait été finalement la structure déjà de Stranger Than Paradise, c'est-à-dire finalement, non, en fait, on va pas entremêler, on va séparer, on va détacher, on va isoler des plans. Et c'est vrai qu'on, enfin, depuis très longtemps... ne serait-ce que dans les cheveux de course de Stranger Than Paradise, il y a une citation d'Ozu, je crois que c'est le goût de Tokyo. Je crois.
D'ailleurs, on pense beaucoup à Ozu.
On pense beaucoup à Ozu, mais c'est presque...
Les parents âgés, les enfants âgés, qui n'ont plus aucune relation avec eux, c'est un peu voyage à Tokyo. Voilà.
Et que ce faux film de famille est évidemment un clin d'œil à Ozu, mais de plus en plus, il y a quelque chose de la cuisine japonaise, enfin, ou de la... J'y pense peut-être, parce que chaque fois qu'on se voit, on mange coréen, parce qu'il est végétalien, donc c'est quand même très très galère de trouver des choses. Mais finalement, je le vois détacher des aliments, les faire cuire séparément. Enfin, il y a quelque chose d'une tambouille, pour ainsi dire, en tout cas d'une cuisine propre à Jarmusch, qui est de plus en plus celle de une dialectique de la séparation, de la séparation des éléments pour qu'ils puissent avoir du goût entre eux, une fois qu'on en prend non pas un, non pas deux pour que ça fasse unité ou couple, mais trois ou plus.
Christian Rosset.
Oui, à propos de Faulkner, dans la pile de livres qui est dans la maison de Tom Waits, il y a Lumière d'août de Faulkner, qui est juste en dessous de poèmes de Mandelstam.
Ouais, donc,
oui, c'est ça. Et la différence, il avait fait dans Night on Earth 5 pays différents dans les 5 parties, sauf qu'il suivait la course du soleil dans ces 5 parties, alors que là, ça se passe, on a l'impression, à peu près au même moment. Ce qui me frappe dans l'épisode parisien, c'est que moi, j'ai vécu quand même pas mal d'années dans les quartiers où ils nous emmènent, et que je connais théoriquement toutes les rues, je les ai toutes faites à pied, toutes faites avec un agra en enregistrant, en allant partout, et quand je vois le film, ça continue à me surprendre, parce qu'on a l'impression qu'il a saisi un Paris qui est en train de disparaître, et qui, comme s'il trouvait les dernières traces.
C'est un effet génial, Christian, quand je l'entends, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'entends, qui moi m'a surpris aussi, m'a saisi quand j'ai vu le film, et m'a surpris, c'est qu'en fait, tout le monde qui habite Paris, qui voit cet épisode, dit, mais c'est notre Paris, c'est-à-dire ça ne ressemble pas au Paris d'un cinéaste américain qui viendrait filmer un peu comme ça en touriste. C'est vraiment notre Paris à nous. Mais contrairement à vous, je pense que c'est pas un Paris qui est en train de disparaître. Je pense que de la même manière...
Il résiste, ça
me va déjà mieux. Mais d'ailleurs, dans Night on Earth, c'était déjà, il a vu le pif, quand même, il faut le dire. Il était allé tourner au boulevard de la Villette. Enfin, c'était un quartier qui, à l'époque, était un coupe-gorge. C'était la colline à crack, quasiment. Maintenant, aujourd'hui, c'est un quartier qui depuis, a vécu. Et là, il est allé chercher jusqu'au en dehors de Paris, jusqu'aux bordures de Paris, c'est-à-dire un Paris 21 arrondissement, enfin, pour d'une certaine manière, je pense que ça l'intéresse beaucoup. Donc je crois que c'est un Paris au contraire qui va venir. Je crois que c'est un cinéaste des fois souvent visionnaire, Jim Jarmusch, plus qu'on ne le croit. I get confused, I never know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. Spooky. Merci Philippe Azoury et Christian Rosset, on ne peut plus vous arrêter. Merci d'avoir prolongé notre plaisir d'avoir vu Father, Mother, Sister, Brother. Le nouveau film de Jim Jarmusch est sorti ce mercredi en salle et il marche très très bien. Et j'ai votre commande, Antoine.
Oui, on parlera de ça tout à l'heure. Pour prolonger encore le plaisir, Jim Jarmusch, une autre allure de Philippe Azoury, c'est aux éditions Capricci. Les Terrains Vagues de Christian Rosset, c'est sur diacritique.com. Et puis pour entendre Jim Jarmusch jouer de la musique, on signale encore cette très belle édition des films de Man Ray, accompagné par Skurl, le groupe du cinéaste. Ça s'appelle Retour à la raison et c'est en DVD et Blu-ray chez Potemkin. Vous écoutez France Culture, plan large, et dans les sorties de cette semaine, Il y a encore un film qui, sous le nom de Sound of Falling, un titre très jarmuchien, d'ailleurs, a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Celui qui n'avait pas voulu du film de Jim Jarmusch, et tant mieux pour Jarmusch, puisqu'il a reçu le Lion d'or de la Mostra de Venise, on avait omis de le préciser. Le film de Masha Chilinski s'appelle dorénavant Les échos du passé. Il est signé d'une jeune cinéaste allemande, déjà autrice en 2017, d'un film encore inédit en France, dit Torteur, la fille. Sont entrelacés dans Les échos du passé quatre époque qui couvre 100 ans d'histoire allemande et quatre destins, cette jeune fille qui ont toutes vécu dans la même ferme des confins à la frontière de ce que furent un temps les Allemagnes de l'Est et de l'Ouest. Leurs destins souvent cruels se répondent en écho et en rime. On est encore pas très loin de Jarmusch finalement, dans une science époustouflante de la mise en scène et du montage, comme si toutes les saisons de la série Heimat d'Edgar Wright s'interpénétraient dans un seul film de 2h30, mais selon un point de vue féminin et parfois fantomatique. Un grand film très sensoriel, très sensuel sur le regard interdit ou subi, sur la mémoire corporelle et la transmission intergénérationnelle de la souffrance et des traumatismes dus aux violences faites aux femmes. Et c'est comme si les lieux mêmes du film avaient dicté son histoire et ses personnages à Masha Chilinski.
Wenn ich mein Bein heben will, dann kann ich es tun. Und wenn ich meinen Arm heben will, dann kann ich ihn heben. Doch wenn ich meinem Herzen befehle, dass es stehen bleiben soll, dann tut es das nicht. Es schlägt einfach weiter.
Ich glaube in jedem Fall, dass
je crois bien que les lieux absorbent une émotion, absorbent une impression, et qu'ensuite les lieux peuvent, après les avoir absorbés, les exprimer. Ça peut être d'ailleurs des sensations agréables comme désagréables. On sent quand on est dans un lieu. Est-ce qu'on se sent bien ou est-ce qu'on se sent mal dans ce lieu? Et nous, avec Louise, qui est donc la co-autrice du scénario, et moi-même, nous avons passé, il y a 5 ans, un été entier dans cette ferme qui était restée pendant 50 ans intouchée. On n'avait absolument fait aucun travaux, tout était resté dans son jus. On a donc écrit sur place le scénario et ça a été aussi le lieu du tournage. Et nous avons trouvé une photo de 1920, c'était un instantané, ce qui était assez étonnant pour l'époque, avec trois femmes, et ces trois femmes, nous avons trouvé cette photo, on avait l'impression qu'elles nous regardaient. Et la photo avait été prise exactement au même endroit où nous trouvions. Ça nous a tout de suite posé la question, nous nous sommes posé la question de se demander qu'est-ce qu'elles ont fait et qu'est-ce qui leur est arrivé dans ce lieu où nous faisons quelque chose de très banal comme regarder notre portable, et elles, qu'est-ce qu'elles ont vécu dans ce lieu.
Les échos du passé est lui aussi sorti en salle ce mercredi. C'est Jacqueline Recker qui traduisait les propos de Masha Chilinski. Et puis aujourd'hui, en parlant d'échos du passé, on avait aussi envie de vous faire entendre cette voix.
C'est vraiment une séance, comme on les faisait avant, avec un court-métrage ou un dessin animé, puis le grand film, comme on disait. Donc j'espère que ça vous plaira, ça me présente bien. C'est un hommage à Langlois, qui a été mon papa de cinéma, le patron de la Cinémathèque française, Truffaut, Chabrol, avec lequel j'ai tourné un film qui s'appelle Les Godelureaux, et Jim Morrison. Le dernier film qu'il a vu, c'était dans ma salle, puisqu'il est mort dans la nuit qui a suivi.
Cette voix, c'est celle de Jean Max Causse dans le bonus d'un DVD récemment paru où il parlait de son court-métrage cinéma comme devant être vu en première partie du seul long-métrage qu'il avait réalisé. C'était en 1972 avec Roger Taverne, le formidable franc-tireur, avec Philippe Léotard, un film de résistance sur le plateau du Vercors, filmé comme un western d'Anthony Mann et censuré de fait pendant 30 ans pour irrévérence au mythe national. Mais Jean Max Causse, dont on a appris avec grande tristesse la disparition vendredi de la semaine dernière à l'âge de 85 ans, c'était surtout et avant tout un immense passeur, en particulier du cinéma hollywoodien classique, comme de celui des Mavericks des années 60 et 70, un de ceux qui, avec son compère Jean-Marie Rodon dans les salles Action, puis avec son fils François à la Filmothèque du Quartier Latin, a prolongé, complété et même suppléé le travail des cinémathèques, pionnier qu'il était de la monstration en salle du patrimoine cinématographique. Sans lui, par exemple, on n'aurait jamais redécouvert The Shop Around the Corner d'Ernst Lubitsch, ni Pat Garrett et Billy the Kid tel que l'avait voulu Sam Peckinpah. Mais c'est aussi chez lui qu'on a vu pour la première fois les films de Jim Jarmusch, qui était venu le trouver avec les bobines de Permanent Vacation sous le bras, ou de Gaspard Noé, dont il avait distribué Carn et de tant d'autres encore. Il avait pris sous son aile généreuse nombre de jeunes cinéphiles, dont votre serviteur, qui lui doit énormément et qui, sans lui, ne serait de toute évidence pas à ce micro aujourd'hui. Merci pour tout, Jean-Max. Cette émission t'est aujourd'hui tout particulièrement dédiée. Une petite fille de 8 ans en robe blanche de première communiante qui danse sur l'air de passe-doble qu'on entend avec son père en lui jetant des regards éperdus d'amour. C'est une des plus belles scènes d'un film qui en compte beaucoup, des belles scènes. Le Sud de Victor Hérissé, cinéaste beaucoup trop rare, seulement 4 longs métrages, dont le dernier Fermez les yeux est sorti en 2023. Le Sud a été réalisé, lui, 40 ans avant, c'était en 1983. 10 ans avant, il y avait eu déjà le magnifique L'Esprit de la ruche, et c'est à nouveau sur les rives de l'enfance et auprès des perdants de la guerre d'Espagne qu'aborde Victor Hérissé avec ce film qu'on pourrait dire sur la démythification des pères, mais qui est surtout un envoûtant songe de la lumière, pour reprendre le titre du film suivant du cinéaste Entebbe.
Oui, alors c'est intéressant de constater que les films qu'il a fait après pourraient être le titre de celui-ci. C'est-à-dire, El Sur pourrait s'appeler Songe de la lumière et pourrait s'appeler Fermer les yeux. Puisque ça commence par, on ne sait pas si c'est une ouverture au noir ou un allumage de lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, qui est d'une beauté plastique sublime du début à la fin, c'est pas du tout peindre des tableaux avec la lumière, c'est raconter une histoire avec la lumière. Parce que Victor Hérissé, c'est quelqu'un qui, s'il n'avait pas été en Espagne, enfin c'est un peu idiot de dire ça, mais il aurait sans doute été l'un de ces anciens critiques qui sont devenus cinéastes au moment de la Nouvelle Vague. Et lui dit toujours, à cause du franquisme, on n'a pas eu la Nouvelle Vague. Donc, dans ses films, il parle toujours de cinéma, parce que c'est un ancien critique de cinéma. Il parle du cinéma espagnol, il parle de l'histoire, et il parle aussi de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film, qui a été fait il y a 40 ans, on y voit comme une sorte de somme du cinéma d'avant, et une sorte de projection dans le cinéma d'après. C'est très étrange, parce que, peut-être qu'il n'a pas voulu ça, mais c'est... alors que c'est un film qui paraît songeur et contemplatif. C'est l'histoire donc de cette petite fille, mais qui est dans le souvenir d'une adulte. Et ensuite, cette petite fille a le souvenir de choses qu'on lui a racontées, qui étaient avant sa naissance, et qu'elle n'a pas vues. Ensuite, elle va devenir une adolescente, et on s'aperçoit que c'est le souvenir de la petite fille qui est intéressant dans le parcours de l'adolescente. Peut-être que Jarmusch, c'est un cinéaste du nombre impair, mais là, c'est un film très père. Enfin, père, P-E-R-E, mais père, P-A-I-R. C'est-à-dire que toute séquence de la première partie correspond à une séquence de la deuxième partie. Cette danse où cette petite fille qui idolâtre son père et qui le père au passé anti-franquiste qui se cache pour aller la voir passer sa première communion, ensuite danse avec elle, le plan séquence c'est extraordinaire, mais ça prend encore plus de poignance dans une scène beaucoup plus tard dans le film, parce que ce sera le souvenir de la première scène qui sera inscrit là-dedans. Et alors, dans El Sur, il y a toute l'histoire du cinéma, représentée d'abord par... Il y a toujours des films dans le film, dans tous les films de Hérissé, mais c'est représenté aussi par le casting. C'est-à-dire que vous avez Germaine Montero, qui joue le rôle de la grand-mère. Et Germaine Montero, c'était l'amie de Lorca, c'est cette chanteuse française qui a chanté Prévert et qui a été la partenaire de Gérard Philippe et qui joue le rôle d'une grand-mère un peu taiseuse. Et vous avez aussi, dans ce film, l'adolescente est jouée par Issyar Bolen, qui deviendra, mais beaucoup plus tard, une cinéaste, même une sorte de porte-parole des cinéastes femmes de la nouvelle génération du 21e siècle. Et puis, vous avez la vieille actrice qui fait la gouvernante, qui est géniale, qu'on a vue dans les films de Carlos Saura, celle qui faisait Maman dans Maman à 100 ans. Vous avez la petite fille qui, ici, a 8 ans, mais qui deviendra... lorsqu'elle deviendra adulte, cette jeune actrice deviendra la spécialiste des effets visuels de Pedro Almodovar. Donc, vous avez comme ça cette galaxie cinématographique, mais qui imprègne une histoire complètement poignante, une histoire d'initiation, comme tous les films de Victor Hérissé, et qu'on peut voir et revoir, mais à chaque fois, on y découvre des splendeurs insoupçonné même, je dirais, sur la communication entre les êtres, sur la transmission, sur les rapports entre parents et enfants. Le film a été voté, je crois, parmi les 10 plus grands films espagnols de tous les temps. Et je crois que ça fait du bien de le revoir aujourd'hui.
Mais c'est aussi un film qui a subi des soucis de production, puisque normalement, oui. une troisième partie devait se tourner dans le sud. C'est un film qui est entièrement dans le nord de l'Espagne, qui s'appelle Le Sud, et ce sud, on ne le verra jamais.
Mais c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, c'est un peu comme, si vous voulez, Mulholland Drive de David Lynch, qui est un pilote d'une série qui n'existe pas, mais qui, en soi, du coup, devient génial. Mais là, c'est la même chose. Le sud, on en parle toujours. On est dans ce nord brumeux, etc. Pour Hérissé, c'était une frustration. Il avait beaucoup de mal à parler de ce film, puisqu'en fait, la deuxième partie n'a jamais été tournée. Et en fait, la première partie où on rêve du Sud sans le voir, qui est l'une des forces du film, eh bien, cette première partie a eu tellement de succès que le producteur qui lui avait promis de tourner la suite, il a dit « Bon, on s'arrête là, puisque le film est déjà un classique, il n'y a même pas besoin de tourner la suite. » Donc, de cette intense frustration naît un chef-d'œuvre.
Merci Ntebine, Le Sud de Victor Hérissé, c'est à voir absolument en salle dans une très très belle version restaurée. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Jean-Guilain Meige. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.